durable. L'ensemble de l'humanité paye de plus en plus chèrement l'irresponsabilité et l'avidité de la classe capitaliste. Le monde est plongé dans un contexte de crise économique, de concurrence commerciale, d'excitation nationaliste et de course aux armements. Depuis des années, plusieurs pays du Moyen-Orient ou d'Afrique sont ravagés par des conflits et des interventions militaires des grandes puissances. En Irak, les interventions occidentales n'ont amené que la misère pour les classes populaires. Depuis plusieurs jours, les manifestations se succèdent pour dénoncer la corruption, pour demander des emplois, pour demander des services publics dignes de ce nom. La répression a déjà fait 60 morts. Voilà ce qu'est la démocratie apportée par les grandes puissances. Suite à l'attaque de drones contre des installations pétrolières saoudiennes, le gouvernement américain de Trump a relancé les hostilités contre l'Iran. Avec cette menace d'une nouvelle guerre impérialiste au Moyen-Orient, avec les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, avec la menace du Brexit, la moindre annonce peut plonger le monde dans une nouvelle phase encore plus brutale de la crise. De l'Asie à l'Afrique, en passant par l'Europe, le monde est une gigantesque poudrière. Dans cette période de multiplication des conflits militaires, l'industrie de l'armement est un secteur moteur de l'économie. Et des groupes capitalistes, comme Dassault ou Thales, voient leur marge s'envoler. Que des trésors de travail humain, d'intelligence et de technologie soient utilisés pour perfectionner des objets de destruction, cela suffit à juger de la barbarie de ce système économique. Les marchands de mort français ne sont pas les seuls à s'enrichir. Plus de 10 ans après la crise de 2008, les capitalistes ont restauré leurs profits. Quelques chiffres étourdissants. Cette année, le montant des dividendes versés aux actionnaires dans le monde devrait s'élever à plus de 1400 milliards de dollars. 26 milliardaires sur la planète possèdent autant que la moitié de l'humanité. Et les bourgeois français comptent parmi ceux qui se sont le plus enrichis, comme Bernard Arnault, patron de Carrefour et de LVMH, quatrième fortune mondiale, dont la fortune a augmenté de 20 milliards d'euros l'année dernière. Ce sont ces capitalistes qui décident de tout dans l'économie, de comment ils utilisent ces capitaux gigantesques qu'ils ont entre les mains. Au nom de la propriété privée des moyens de production, qui est sacrée dans notre système économique, la collectivité n'a jamais son mot à dire sur l'utilisation des richesses. Dans la production de médicaments, par exemple, on a vu se multiplier les pénuries ces derniers temps. Tout cela parce que des trusts comme Sanofi cherchent à limiter les stocks au maximum ou limitent volontairement la production de tel ou tel médicament jugé pas assez rentable. Les richesses dégoulinent à un pôle de la société, mais elles s'investissent de moins en moins dans la production. Parce que, avec la crise, avec la saturation des marchés, eh bien cela ne rapporte pas assez. Et dans l'économie capitaliste, on ne produit que ce qui rapporte. Et on ne produit pas. Alors on spécule. C'est ainsi que les bulles spéculatives se multiplient, faisant dire aux économistes et même aux plus fervents défenseurs du système que le problème n'est pas de savoir si un krach boursier va avoir lieu, mais quand. Les capitalistes eux-mêmes ont si peu confiance dans l'avenir de leur propre économie qu'ils en arrivent à prêter à certains États à des taux négatifs. Que des banquiers préfèrent perdre de l'argent en mettant leur bille dans un placement sûr, cela en dit long sur l'état de décrépitude de leur système. Si la classe capitaliste s'enrichit, ce n'est pas en développant l'économie. Ce n'est pas en construisant les logements ou les chemins de fer qui seraient nécessaires. Ce n'est pas en apportant l'eau et l'électricité aux régions du monde qui en manquent. C'est en usant davantage des installations existantes, en rachetant à prix d'or des concurrents, sans créer la moindre richesse nouvelle. C'est en aggravant l'exploitation des travailleurs, en réduisant les salaires, en augmentant le temps de travail, la précarité, la flexibilité. Un exemple, tous secteurs confondus en France, plus de 17 millions de contrats courts ont été signés en 2017, soit 3 fois plus qu'il y a 20 ans. PSA fait travailler dans son usine de la Jeannette plus de 60% de travailleurs intérimaires et sous-traitants. Et lorsque PSA, qui se vante d'être la marque la plus rentable du monde, décide de réduire la production en fonction des aléas de la concurrence, les ouvriers intérimaires sont licenciés par centaines, sans aucune forme d'obligation pour le patron. Ainsi, aujourd'hui, dans l'usine de Mulhouse, 1200 intérimaires sur 1400 vont être licenciés et 500 à Poissy. Les patrons font payer aux travailleurs les lois de la jungle de la concurrence capitaliste, par des chantages à l'emploi et à la compétitivité, comme à Michelin, par des plans de suppression de postes et de licenciements chez Tati, chez Carrefour et bien d'autres, par des mises en faillite chez Thomas Cook, chez Aigle Azur. Le cancer du chômage ne cesse de progresser malgré les efforts du gouvernement pour transformer les chiffres et ne comptabiliser que ceux qui l'arrangent. L'État, en tant que patron, applique la même politique que les capitalistes. En 2019, il a fait bénéficier les patrons de plus de 40 milliards d'euros sous forme d'exonération de cotisations et de cadeaux divers, comme le CICE. Ces milliards ont été économisés sur le dos de la population. Dans les services publics, le gouvernement impose une course à la rentabilité avec partout les mêmes conséquences désastreuses. Lundi dernier, une directrice d'école, épuisée par le manque de moyens pour faire son travail, n'a pas trouvé d'autre solution que de mettre fin à ses jours. Cet événement dramatique a provoqué la tristesse, mais aussi la colère des enseignants, qui dénoncent depuis plusieurs années la chute constante de moyens dans l'éducation nationale. Dans les hôpitaux, les services d'urgence sont en grève depuis plusieurs mois. Au CHU de Rennes, la mobilisation s'étend à d'autres secteurs. Elle rejoindra celle des travailleurs des EHPAD et des services de soins à domicile mardi prochain. Eh bien, tous ceux qui se mobilisent ont raison. Macron vient de s'en prendre aux chômeurs avec la dernière réforme de l'assurance chômage. Il entend maintenant poursuivre les attaques des gouvernements précédents contre le système des retraites. Comme toutes les autres réformes de ses prédécesseurs, de gauche et de droite, celle-ci est en réalité destinée à réduire les pensions déjà indignes pour des milliers de femmes et d'hommes. Nous faire travailler plus, mais il faudrait déjà pouvoir travailler quand on sait que la moitié des plus de 55 ans est soit au chômage, soit en invalidité, usée par le travail. Accepter un système de points dont la valeur pourrait être modifiée chaque année par le gouvernement, mais cela s'apparente à un chèque en blanc fait à un voleur. Bien sûr que l'argent existe pour payer les retraites, à condition d'aller le chercher là où il est en abondance, là où il est dilapidé dans des caprices de riches, là où il alimente la spéculation, cette véritable bombe à retardement pour toute l'économie. Les travailleurs de la RATP ont été les premiers à riposter, et massivement. Malgré les différences de statut, de droit, de métier, ils ont réussi à se rassembler et ont quasiment stoppé le fonctionnement du métro parisien pendant toute une journée. Oui, quand les travailleurs s'unissent et se mettent en grève, rien qu'à l'échelle d'une entreprise, cela pèse. Alors imaginez la force que représenterait une riposte de l'ensemble des travailleurs de tous les secteurs. La mobilisation du 24 septembre a rassemblé des dizaines de milliers de travailleurs. C'est dans cette voie qu'il va falloir poursuivre, parce que cela fait des décennies que la situation du monde du travail recule, entreprise par entreprise. Macron joue la prudence. Il nous refait le coup du grand débat et des consultations des confédérations syndicales. C'est que lui et son gouvernement craignent que les colères s'unissent et se transforment en une colère sociale bien plus dangereuse pour les bourgeois. Eh bien, camarades, Souhaitons que les travailleurs se saisissent de toutes les occasions pour lui donner raison. Pendant que, dans les quartiers populaires, le chômage se développe et les conditions de vie se dégradent. Pendant qu'une minorité d'intouchables accumule les richesses sur le dos de la classe ouvrière et les utilise pour spéculer et alimenter les guerres d'un bout à l'autre de la planète, la classe politique s'agite. En réalité, c'est le rôle que la bourgeoisie lui a assigné. Maintenir cette illusion que les votes de la population peuvent changer la situation sociale. Sauf que cette illusion est de moins en moins crédible, parce que la crise actuelle démontre de manière de plus en plus évidente que notre vie est soumise au grand capital à l'échelle mondiale. Avec la perspective des élections municipales, les leaders des partis de gauche nous réjouissent de l'unité. Les dirigeants du Parti communiste servent à nouveau à leurs militants le seul et éternel argument qui est que l'unité de la gauche conditionne la victoire sur la droite et l'extrême droite. Mais si dans les quartiers populaires, le parti de Le Pen peut apparaître un moyen de donner une claque à Macron et à son arrogance anti-ouvrière, c'est aussi et surtout le fruit des trahisons et des reniements des partis de gauche chaque fois qu'ils se sont retrouvés au pouvoir. De Mitterrand à Hollande en passant par Jospin, les gouvernements de gauche ont été des gouvernements de combat contre les travailleurs. Qui peut croire que la gauche revenue au gouvernement déferait les mesures prises contre les retraites, contre le droit du travail, contre les services publics? Ni Jospin ni Hollande ne l'ont fait en leur temps. Ils ont continué les attaques anti-ouvrières commencées par leurs prédécesseurs de droite. La gauche unie au gouvernement n'a pas été un rempart, mais un combustible pour l'extrême droite. Pour détourner la colère et masquer la responsabilité de la classe capitaliste, le Rassemblement national présente les migrants comme les causes de tous les problèmes. C'est pour les mêmes raisons que Macron a décidé ouvertement de lui emboîter le pas avec un autre grand débat sur l'immigration. Mais ce ne sont pas les seuls. De l'extrême droite au Parti communiste, tous les politiciens y vont de leur couplet nationaliste et patriotique. Tous expliquent aux travailleurs qu'il faut produire français et protéger les entreprises françaises, c'est-à-dire se ranger derrière les capitalistes français, c'est-à-dire nos propres exploiteurs. Et c'est la suite logique de ces idées nauséabondes que de voir aujourd'hui les migrants jetés en pâture à la population comme étant un problème à résoudre. Dans ce monde de plus en plus barbare, ils sont des milliers, contraints de fuir leur pays, chassés de chez eux par la misère et par les guerres, prêts à risquer leur vie pour gagner une Europe dont les frontières se hérissent de barbelés. S'en prendre à eux, c'est une ignominie. À Rennes, 350 migrants ont été contraints de camper dans des conditions indignes, comme dans bien d'autres villes d'ailleurs. Contrôlés par la police, ballottés entre le camping des Gailleuls et des hébergements de fortune dont ils se font ensuite expulser, ils font l'objet d'une véritable traque par la préfecture. Comme ces 33 personnes, familles et enfants scolarisés, renvoyés hier par charter en Géorgie, c'est une honte. Nous saluons le courage et la détermination de ces femmes et de ces hommes et nous leur adressons toute notre solidarité. Et nous vous encourageons bien sûr à vous joindre à toutes les manifestations de soutien. La classe ouvrière s'est constituée avec des générations de migrants, avec les générations de paysans chassés de leurs terres et transformés en prolétaires, avec des générations de femmes et d'hommes capturés en Afrique, réduits à l'esclavage et envoyés dans les plantations d'Amérique. En France, au XIXe siècle, les migrants étaient auvergnats, savoyards, bretons. Puis ils sont venus de plus loin, de Belgique, du Portugal, d'Italie, de Pologne. Après eux, ou en même temps, sont arrivés les ouvriers des quatre coins de l'Empire colonial, des Vietnamiens, des Africains, des Maghrébins, toujours chassés de chez eux par la misère. Et aujourd'hui, en France, Les travailleurs des grandes entreprises sont originaires du monde entier. Chaque travailleur licencié par son patron est un migrant. Chaque jeune qui cherche un travail est un migrant. S'attaquer aux migrants, c'est s'attaquer à la classe ouvrière. À la crise économique et à la crise financière qui menace, s'ajoute maintenant la crise climatique. Une partie de la jeunesse scolarisée des pays les plus riches manifeste depuis plusieurs mois pour manifester son inquiétude et sa révolte face aux conséquences du réchauffement. Nous en sommes solidaires et ils ont parfaitement raison de se poser le problème à l'échelle internationale. Ils remettent en cause la politique des gouvernements dans ce domaine et demandent des actes concrets. Mais il faut souhaiter que les jeunes réalisent qu'il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Ni des gouvernements en place, quelle que soit la verdeur de leurs discours à l'ONU ou ailleurs, ni, bien sûr, des partis écologistes officiels. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter Yannick Jadot, le porte-parole des Verts, jurer la main sur le cœur qu'il n'est pas question pour lui de remettre en cause l'économie de marché, c'est-à-dire le capitalisme. Mais ce sont les capitalistes qui tiennent les manettes de l'économie. Ce sont eux qui décident de l'organisation, de la production, de l'énergie, des transports. Regardez l'incendie de l'usine Lubrizol, près de Rouen. C'est un des nombreux sites Seveso avec un haut niveau de dangerosité installé en plein milieu de zones d'habitation. L'usine Lubrizol appartient à un groupe américain, propriété du multimilliardaire Warren Buffett. Elle n'en est pas à son premier accident. Ces usines font courir des risques insensés aux travailleurs, à la population et bien sûr à l'environnement, parce que la recherche de profit finit toujours par prendre le pas sur la sécurité. Les pouvoirs publics forcent-ils les entreprises à être plus transparentes? Donnent-ils les possibilités légales aux travailleurs de signaler les manquements? Lève-t-il le secret industriel? Bien sûr que non. Ceux qui aujourd'hui s'organisent pour connaître la vérité sur les conséquences de cet incendie ont bien raison. Si le capitalisme ne prend pas garde aux êtres humains qui peuplent la planète, il ne prend pas plus garde à l'environnement dans lequel ils vivent. Pour aller jusqu'au bout, la jeunesse n'aura pas d'autre choix que de se battre pour une autre société. Une société où ceux qui produisent les richesses décident de leur utilisation. Une société où l'économie serait planifiée, organisée de façon rationnelle, en prenant en compte à la fois les besoins des femmes et des hommes qui y vivent et les ressources de la planète. En un mot, une société communiste. Oui, il est vital pour l'humanité d'exproprier les capitalistes et de leur arracher le pouvoir sur l'économie. La classe ouvrière est la seule force sociale capable d'engager ce combat. Par sa position dans la production, par son nombre, parce qu'elle n'a rien à perdre et tout à gagner à renverser le capitalisme. Cela peut paraître utopique, vu le manque de combativité actuelle des travailleurs. Mais la confiance que nous plaçons dans la classe ouvrière ne dépend pas de la combativité à tel ou tel moment, ni de ce qu'elle peut voter à telle ou telle élection. Et ce ne sont pas le courage et la détermination qui manquent. Partout dans le monde, des travailleurs se battent pour sauver leur peau, pour garder leur travail, pour dégager le système, comme au Soudan, comme en Algérie depuis plusieurs mois, comme en Irak aujourd'hui. Tant qu'il y aura de l'exploitation et de l'oppression, il y aura des révoltes d'exploités, et cela ne dépend pas de nous. À son échelle, et avec ses limites, le mouvement des Gilets jaunes, par la légitimité de la colère qu'il exprime, par sa détermination, a eu le grand mérite de réveiller les consciences. Avec le soutien d'une partie des travailleurs, d'une grande partie des travailleurs, il a fait que pendant des semaines, le gouvernement a été déstabilisé. La bourgeoisie a même eu suffisamment peur pour que certains patrons accordent une prime à leurs salariés. Mais les travailleurs qui se battent ne sont une véritable force que s'ils ont conscience de leurs intérêts de classe. pour pousser au bout les combats qu'ils ont à mener, parce que les capitalistes ne leur laissent pas le choix. Pour ne pas se laisser diviser et tromper, les travailleurs doivent regagner cette conscience. Ils doivent se donner un programme, une politique. Cette politique ne peut exister que si un parti l'incarne. C'est ce parti que nous voulons construire. Ce parti doit se revendiquer des idées communistes révolutionnaires parce que ce sont les seuls qui sont capables d'offrir un avenir à l'humanité. Ce qui dépend de nous, c'est de nous saisir de toutes les occasions pour défendre ce drapeau. Les prochaines élections municipales en sont une. Non pas que nous croyons que les élections puissent changer quoi que ce soit à la vie des travailleurs, mais elles sont un haut-parleur que nous devons utiliser. C'est pourquoi, dans ces élections, Lutte ouvrière présentera des listes de candidats, de travailleuses et de travailleurs fiers de leur camp. Qu'une fraction la plus importante possible de la classe ouvrière se fasse entendre, qu'elle affirme son camp et son drapeau avec nos listes, c'est notre objectif. Alors camarades, je nous souhaite un bon travail pour la campagne qui s'annonce et une bonne fête pour commencer à nous y préparer.